Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est Jean-Noël avec vous pour l'émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous parlons de l'actualité scientifique sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet un peu partout dans le monde, bien évidemment, en direct ou en différé grâce au podcast et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Au niveau de l'éphéméride, en 1967, c'était la première émission en couleur à la télévision française. C'était sur la deuxième chaîne en 67, le 1er octobre. Et en 2010, c'est le lancement de Change 2. C'est le second satellite d'observation lunaire chinois. En 2010, on en avait parlé également dans cette émission. Donc il y a 12 ans déjà, ça passe tellement vite. Mais on en avait parlé parce que c'était un petit peu les débuts en fanfare de la conquête spatiale avec la Chine. Et donc du coup, voilà, le lancement de ce second satellite d'observation lunaire chinois en 2010... était assez prometteur, et ensuite la Chine a montré ses véritables capacités et sa place qu'elle avait dans l'observation lunaire, bien évidemment. Au niveau de la naissance, le 1er octobre 1842, c'est la naissance de Charles Cros. C'est un poète et un inventeur français. Il était passionné de littérature et passionné de science. Charles Cros est pendant un temps professeur de chimie à l'Institut parisien des sourds-muets. Avant de se consacrer à la recherche scientifique, il présente à l'exposition universelle de 1867 un prototype de télégraphe automatique à la suite de ses travaux qui portaient sur l'amélioration de la technologie de ce système de télécommunication. Donc c'était vraiment totalement innovant. En 1869, il présente à la Société française de photographie un procédé de photographie en couleur qui est à l'origine du procédé actuel de trichromie, les trois couleurs que l'on utilise. Et il partage la paternité de cela avec Louis Ducos du Hauron. En 1877, il adresse à l'Académie des sciences un mémoire qui décrit le principe d'un appareil de reproduction des sons qu'il nomme le paléophone. Son document suggère que les vibrations sonores peuvent être gravés dans du métal à l'aide d'un crayon rattaché à une membrane vibrante et que par la suite, en faisant glisser ce petit stylo rattaché à une membrane sur cette gravure, eh bien, on proviendrait à reproduire le son initial. Et avant que Charles Cros n'ait eu la possibilité de suivre son idée, c'est-à-dire de construire un vrai prototype, Thomas Edison aux États-Unis mettait au point le premier phonographe. Cependant, dans un de ses textes, à la mémoire de son ami publié dans la revue Le Chat Noir, l'écrivain Alphonse Allais prétend avoir vu et entendu les sons restitués par un phonographe construit par Charles Cros bien avant le modèle d'Edison. On pense généralement que les deux hommes ne connaissaient pas leurs travaux respectifs à l'époque. Et donc en hommage à ces travaux, en 1847, son nom est retenu pour désigner l'Académie Charles Cros, qui est fondée par des critiques et des spécialistes du disque, qui attribuent donc chaque année des distinctions très remarquées. Ce sont les grands prix du disque de l'Académie Charles Cros. Effectivement, ce nom nous disait quelque chose. Et bien voilà, c'est ce poète et inventeur français qui est donc né le 1er octobre 1842. Décès le 1er octobre 1814 de Guillaume-Antoine Olivier, naturaliste, entomologiste français. Il est membre de l'Académie des sciences et il devient également professeur de zoologie à l'école vétérinaire d'Alfort, Guillaume-Antoine Olivier. Et donc là encore, c'est très souvent le cas quand on fait l'éphéméride. On a des fois des scientifiques dont le nom passe à la postérité ou dont les inventions sont encore connues et utilisées de nos jours. Et puis d'autres dont finalement on ne connaît pas trop du tout. Enfin, Olivier, c'est un nom qui ne nous dit rien et pourtant c'était un grand savant au niveau naturaliste et entomologiste français, bien sûr. Voilà. Mais ça nous permet dans cette petite phase introductive de chaque émission, d'évoquer la mémoire de ces scientifiques qui ont été des pionniers dans différents domaines. Et c'est toujours intéressant, bien sûr, de pouvoir se rappeler un petit peu de ce qu'ils ont fait. Et c'est très bien pour notre culture scientifique. Cette information qui est assez intéressante et cette annonce d'un vaccin contre la maladie de Lyme qui est actuellement à l'étude. Un vaccin élaboré par Valneva et Pfizer. Ce vaccin s'apprête à être testé lors d'essais cliniques sur des volontaires, 6000 volontaires qui sont originaires des États-Unis, de toute l'Europe. L'objectif, c'est de pouvoir tester l'efficacité et l'innocuité de ce vaccin en comparaison avec un placebo. Et donc, les volontaires vont recevoir 3 doses de ce vaccin ou alors un placebo. Et ensuite, après une première série d'immunisations, eh bien, il y aura une dose de rappel qui sera administrée 12 mois ensuite. Et pour attester l'efficacité de ce vaccin, eh bien, les médecins suivront l'apparition de la maladie de Lyme chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Rappelons que la maladie de Lyme, elle est causée par une bactérie qui est transmise par les tiques. Et le vaccin, eh bien, c'est un vaccin qui ne contient aucun agent infectieux, mais des protéines qui ont été exprimées et synthétisées en laboratoire. Et l'idée, c'est de pouvoir former une immunité spécifique à une protéine qui est présente à la surface de cette bactérie pour pouvoir donc neutraliser cette bactérie. Et donc, du coup, la bactérie, elle ne peut pas se transmettre à la tique si, lors de la piqûre de la tique au niveau de l'homme, pardon, je reprends ma phrase. Si on bloque cette protéine, du coup, quand la tique nous pique, la bactérie ne pourra pas proliférer dans le corps humain. Donc, du coup, il n'y aura pas cette maladie. C'est un petit peu la finalité de ce vaccin. Et les deux laboratoires espèrent obtenir des résultats finaux en décembre 2024. C'est assez prometteur parce que la maladie de Lyme touche plus de 100 000 personnes par an en Europe et 400 000 aux États-Unis. Et selon une étude récente, les cas ont explosé de 375% dans les régions rurales américaines et 65% dans les régions urbaines ces 15 dernières années. Et donc, cette dernière ligne droite, apparemment, pour le seul vaccin à l'étude concernant la maladie de Lyme, c'est totalement prometteur. Et donc, voilà, on espère avoir des résultats positifs et donc une mise sur le marché. Et maintenant, vous l'avez compris, on attend la fin de ces essais en décembre 2024, donc dans 2 ans. Donc c'est pas encore fait pour une mise sur le marché totalement opérationnelle assez rapidement, bien sûr, mais en tout cas, je trouve que c'est une information assez prometteuse, assez optimiste, et c'est comme ça que je voulais commencer cette émission de Biotine. C'était Zéro avec The Cage sur l'antenne de Graphite. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction des cellules bêta qui sont productrices d'insuline dans le pancréas. Et les patients atteints de ce type de diabète doivent alors s'injecter quotidiennement de l'insuline ou bénéficier d'une transplantation soit du pancréas entier, soit des îlots de Langerhans. Ce sont là où se trouvent ces fameuses cellules bêta. Et bien que la thérapie s'avère efficace, et bien son utilisation à grande échelle est limitée par la pénurie des donneurs d'organes, ainsi qu'aux effets secondaires, bien sûr, des médicaments immunosuppresseurs qui sont associés. Les recherches se sont alors concentrées sur une hypothèse, l'hypothèse de la plasticité des cellules pancréatiques qui serait donc le point de départ d'une nouvelle étude qui est parue dans la revue Signal Transduction and Targeted Therapy. Ce sont des chercheurs de l'université de Monash, c'est en Australie, qui ont utilisé les cellules souches du pancréas d'un donneur diabétique de type 1 afin de les différencier en cellules bêta qui seraient donc productrices d'insuline. Et pour ce faire, ils ont exposé ces cellules à un inhibiteur très spécifique. En fait, ça induit l'expression du gène qui est responsable de l'activité des cellules bêta. Et donc, du coup, on a pu, même si il y a une destruction de ces cellules chez les patients diabétiques, eh bien, on a réussi, entre guillemets, à pouvoir activer quand même ces cellules et donc pouvoir produire cette insuline directement. La molécule a déjà été approuvée par l'administration américaine dans un traitement anticancéreux, mais ça ne l'était pas encore pour le diabète. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de voir si ça fonctionne pour le diabète. Le professeur Assam Elosta, qui est donc membre de cette université de Monash, c'est en Australie, hein, ce que je vous ai dit, et c'est donc l'un des responsables de cette équipe de recherche, il estime que les expériences de son équipe répondent à des besoins médicaux non satisfaits dans le cadre du diabète de type 1. Et donc, en permettant de remplacer les cellules qui produisent l'insuline et ces cellules qui sont détruites chez les diabétiques, et on les remplace par des nouvelles cellules, eh bien, l'étude montre que le pancréas diabétique n'est pas incapable d'exprimer de l'insuline. Les avancées donc, dans le domaine de la génétique du diabète, ça a permis une meilleure compréhension et puis, de façon un peu parallèle, un regain d'intérêt pour le développement de thérapies potentielles. Et cette nouvelle thérapie présente le double avantage de réduire la dépendance aux injections d'insuline et puis d'éviter aussi la lourdeur et les complications qui sont liées à la chirurgie de greffe. Toutefois, l'étude présente quand même des limites parce qu'il s'agit d'un cas isolé de donneur. On ne l'a fait que sur une personne. Donc du coup, là encore, on est sur le cas d'une étude assez restreinte. On ne sait pas si les résultats seront généralisés. D'autant plus que cette molécule a été évaluée qu'in vitro, donc pas nécessairement dans des conditions optimales. Il faut donc des travaux supplémentaires qui seront nécessaires pour pouvoir définir les propriétés de ces cellules et donc d'établir des protocoles qui vont permettre de les isoler et de les développer. C'est ce qu'explique le docteur Alanassi. Il explique « Je pense que la thérapie est encore loin. Cependant, cela représente une étape importante sur la voie de la conception d'un traitement durable qui pourrait être applicable à tous les types de diabète. » Donc voilà, c'est une avancée importante dans les thérapies sans injection d'insuline dans les cas de diabète de type 1. C'est ce qui a donc été annoncé il y a quelques jours. Et là encore, c'est assez prometteur et totalement intéressant et totalement optimiste. Et ça fait du bien. On va parler de totalement autre chose. Ce sont des véhicules qui sont connectés à des rails électriques placés au milieu des voies de circulation et qui peuvent donc se recharger sans aucun effort, tout simplement en roulant dessus. C'est un concept qui existe. Il y a un tronçon de 2 km qui a été spécialement construit à cet effet en Suède et qui est en test depuis 2018. On en avait évoqué, ce sujet dans cette émission il y a quelques années déjà. Et en fait, pour pouvoir se recharger tout en roulant, eh bien les véhicules doivent être équipés d'une sorte de patin qui est placé à l'extrémité d'un bras mobile fixé au bas du châssis, qui se fixe qui se fixe, excusez-moi, j'y arrive pas aujourd'hui. C'est un petit peu le principe des trains, en fait, avec le pantographe qui, lui, va aller rejoindre la caténaire. Ben là, c'est à peu près le même principe, sauf que la voiture a une espèce de, comment dire, de patin qui va, lui, aller se fixer en bas du châssis et se fixer automatiquement sur les rails qui sont disposés sur le parcours. Alors, dans un premier temps, ce système est testé sur des camions, mais l'idée, c'est bien sûr de pouvoir l'adapter aux bus et aux voitures électriques. Et ce bras détecte en fait le moment où le véhicule se trouve au-dessus du rail et donc va pouvoir s'arrimer de façon automatique. De même, en cas de changement de trajectoire ou de dépassement, eh bien, il va se déconnecter directement sans qu'il y ait une action volontaire du conducteur. Donc ça se fait de façon automatique. Ce projet, il s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement suédois qui vise à mettre en place un système de transport faisant totalement abstraction des combustions fossiles d'ici 2030. 2030, c'est demain. Donc effectivement, s'ils veulent avoir un tel dispositif, il va falloir déployer pas mal de choses. Et ce type de route, elle devrait s'étendre dans le pays. L'idée, en fait, c'est de pouvoir électrifier jusqu'à 2000 km de voies d'ici 2030. Cela pourrait aussi donner des idées à d'autres, même si jusqu'à présent, les systèmes de recharge expérimentés par le sol sont essentiellement à induction. Et en début d'année, il y avait le groupe Stellantis qui a annoncé tester en Italie cette fois une technologie avancée de transfert d'énergie sans fil et par induction pour les voitures électriques sur un circuit qui avait été spécialement créé pour une série de tests. Et tout ça, ça préfigure en l'occurrence le type d'infrastructure qui pourrait équiper à l'avenir certains axes routiers, ce qui permet bien sûr de gagner considérablement en autonomie parce qu'on n'aura plus besoin de s'arrêter pour recharger la voiture. La voiture se chargerait directement en roulant. En clair, c'est un petit peu cette idée-là. Il s'agit en fait d'une technologie qui est basée sur une succession de boucles qui sont placées sous l'asphalte et qui transmet l'énergie directement au véhicule qui roule dessus. Chaque véhicule doit cependant être équipé, bien sûr, d'un récepteur qui soit dédié, qui soit chargé de transférer l'énergie qui provient de l'infrastructure routière directement vers le moteur électrique. Donc ça ne se fait quand même pas d'une façon encore totalement aisée et efficace pour l'instant. Et sur le même principe, en Allemagne, eh bien c'est tout un pan de route qui va être équipé sur quelques centaines de mètres afin de fournir de l'énergie aux bus électriques de la ville de Karlsruhe pendant qu'ils roulent. Donc on a vraiment des expérimentations qui se développent un petit peu partout. En Espagne aussi, il y a une société espagnole qui a dévoilé un tout nouveau système destiné à recharger sa voiture en se plaçant directement sur une station dédiée, sachant que ce système fonctionne aussi bien quand le véhicule est à l'arrêt ou quand il est en marche. Et enfin, on nous rappelle dans cet article de Futura que en 2018, BMW avait aussi sorti sa propre solution de recharge sans fil à l'arrêt à destination des véhicules hybrides rechargeables de la marque BMW. Par induction ou à l'aide d'un patin, et bien la solution pour doper l'autonomie des véhicules électriques passera donc peut-être un jour par la route elle-même. Ça peut être une solution, bien évidemment. Ça peut être une solution assez efficace, bien sûr, mais ce qui va impliquer quand même des travaux d'infrastructure assez conséquents quand on voit le nombre de kilomètres de route qui existent, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui commence à se développer un peu partout. Et donc, cet article faisait un petit peu le point sur les différentes expérimentations qui sont développées pour l'instant. On écoute les Têtes Raides. Oh, il y a longtemps qu'on ne les avait pas écoutées sur l'antenne de Graphite.
Jaune et noir dans le noir, vert et bleu dans les cieux, blanche neige en arpège, et rouge et vif sur le vif. Terre ancienne, c'est la tienne, outre-mer prend la mer, bleu turquoise en ardoise, jaune d'or où tu dors. Je dors un peu, mais pas trop. Ça dépend de la météo. On vous le dira bientôt. avant qu'il ne soit trop tôt. C'est bien fait. Et quand ça dure, vie d'ordure, sur la zone des ozones, d'une terre qui nous enterre. Et t'as va bien, et t'as d'urgence, et t'as qu'à pas, mon petit bonhomme, t'as qu'à pas suivre le métronome, et t'as une chance. Je dors un peu mais pas trop, ça dépend de la météo, on vous le dira bientôt, avant qu'il ne soit trop tôt.
Trade avec Météo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, Beauty, l'émission d'actualité scientifique où on parle un petit peu de tous les sujets, de l'espace, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la médecine. C'est le cas là dans cet article qui nous parle de la cornée. La cornée, c'est l'écran transparent qui recouvre la partie avant de l'œil. Ça protège l'iris, ça protège la pupille. Et cette cornée est composée de différents types de collagène. Et avec le temps, eh bien, cette structure peut s'amincir, ce qui entraîne un renflement de la cornée vers l'extérieur et une distorsion de la vision. Or, la perte de transparence de la cornée constitue l'une des principales causes de cécité dans le monde. Il y a environ 13 millions de personnes qui sont en attente d'une greffe de cornée et seule une personne sur 70 parvient à en bénéficier. En particulier, la grave pénurie de cornée issue de donneurs pèse lourdement sur les pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Les chercheurs de l'étude qui est parue récemment dans la revue Nature Biotechnology ont tenté de contourner le problème avec la mise au point d'un implant composé de protéines de collagène qui proviennent de la peau de porc qui ressemble à la cornée humaine. Alors bien évidemment, les molécules utilisées ont été hautement purifiées, bien sûr, produites dans des conditions strictes pour un usage humain, bien évidemment. Et ce matériau, un matériau de bio-ingénierie, a été inséré de manière simple dans la cornée du receveur sans avoir à retirer la dernière cornée. Donc on peut voir, on peut comment dire, en rajouter. Il faut savoir que les chirurgiens enlèvent d'ordinaire la cornée d'un patient pour la remplacer par la greffe. Et donc avec cette nouvelle méthode chirurgicale, c'est pas le cas. Il n'y a aucun point de suture qui est nécessaire. Seule une petite incision permet l'insert de l'implant dans la cornée existante. Et les chercheurs rapportent que la méthode, qui est bien sûr moins invasive, s'avère plus sûre qu'une greffe de cornée classique. Dans le cadre de l'étude clinique, il y a des chirurgiens en Inde et en Iran qui ont testé l'implant chez des sujets aveugles ou sur le point de perdre la vue en raison justement de cette maladie qu'on appelle le kératocone. Et pendant les 2 années de suivi, aucune complication n'a été relevée. Les chercheurs notent des améliorations de l'épaisseur de la cornée et de l'acuité visuelle. Au final, la vue de tous les participants s'est autant améliorée avec la cornée artificielle qu'après une transplantation de cornée. Si 14 des 20 participants étaient aveugles avant l'opération, plus aucun ne l'était après 2 ans. C'est quand même fascinant. Parmi eux, 3 des participants indiens avaient même une acuité visuelle de 20 sur 20 après l'opération. C'est totalement fascinant. Au final, les cornées issues de porc, ça permet un stockage de plus longue durée avant utilisation, alors que celles qui sont issues de donneurs, elles doivent être utilisées dans les 2 semaines. Les résultats montrent qu'il est possible de développer un biomatériau qui répond à tous les critères pour être utilisé comme un implant humain, qui peut être produit en masse, qui peut être stocké jusqu'à 2 ans. Cela nous permet de contourner le problème de la pénurie de tissus de cornée et d'accéder à d'autres traitements pour les maladies oculaires. C'est ce qu'explique dans un communiqué Neil Lagali, qui est le chercheur à l'université de Linköping en Suède et qui est le principal auteur de cette étude. Alors, avant que l'implant puisse être utilisé, une étude clinique de plus grande envergure suivie d'une autorisation de mise sur le marché par les autorités réglementaires, qui sera toutefois nécessaire bien évidemment, mais en tout cas, c'est totalement prometteur, c'est totalement intéressant, cette cornée artificielle qui rend la vue à des aveugles, c'est quand même totalement fascinant, je trouve. Et là encore, c'était une information optimiste et ça fait du bien, je trouve. On a besoin d'informations optimistes, ça nous fait chaud au cœur. Là, elle est un petit peu moins optimiste, cette information, et quelque part, elle confirme ce que l'on présupposait. Le tabagisme est responsable de plus de 8 millions de décès dans le monde chaque année, selon l'OMS. Chez les fumeurs, un bon nombre de décès évitables sont dus à des maladies cardiovasculaires, telles que la crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral. Les effets néfastes du tabagisme sur les artères et les maladies artérielles sont déjà bien établies, on le sait. Cependant, il y a des chercheurs danois qui estiment que le lien entre le tabagisme et la structure et la fonction cardiaque n'est pas clair. Et donc, ils vont présenter les résultats de leur étude lors du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie qui va se tenir à Barcelone. Et leurs travaux, à ces Danois, ont visé à déterminer si le tabagisme était lié à des modifications de la structure et de la fonction du cœur chez des personnes qui ne souffrent pas de maladies cardiovasculaires, ainsi que l'effet d'un changement des habitudes tabagiques. Et donc l'équipe a comparé les échographies du cœur des fumeurs actuels à celles de personnes qui n'ont jamais fumé. Et le docteur Holt, qui est donc le principal auteur de cette étude, explique, nous avons trouvé que le tabagisme actuel et l'accumulation de nous avons trouvé que le tabagisme actuel et l'accumulation de nombre de cigarettes qui ont été fumées au cours d'une vie étaient associés à une détérioration de la structure et de la fonction de la chambre cardiaque gauche, qui est la partie la plus importante du cœur. En outre, nous avons constaté que sur une période de 10 ans, les personnes qui ont continué à fumer ont développé un cœur plus épais, plus lourd, plus faible, donc moins capable de pomper le sang, par rapport aux personnes qui n'ont jamais fumé et par rapport à celles qui ont arrêté de fumer pendant cette période. Bref, c'est une étude qui confirme là encore les effets néfastes du tabagisme, sauf qu'on avait peu d'études sur le cœur. Là, c'est une étude un peu nouvelle, entre guillemets, mais qui apporte là encore des précisions et quelque part, on va dire que ça confirme un peu ce qui était présupposé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de laisser tomber la cigarette, ça permettrait d'annuler certains dommages causés au cœur. C'est-à-dire que ça n'est pas irréversible. Et ça peut être finalement une bonne nouvelle. Mais voilà, là encore, les effets de la cigarette sur le cœur sont pires que ce que l'on pensait d'après cette étude danoise. Voilà, c'est optimiste, mais bon, il y a quand même un moment où il faut faire attention, mes enfants, c'est tout, hein, c'est comme tout. Allez, encore un peu de musique parce que ça nous fait du bien. Stella, c'était Water Lilies sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bon appétit si vous êtes à table. Hein. Nous sommes samedi à l'heure du déjeuner ou alors bon petit déjeuner si vous nous écoutez lors de la rediffusion le mardi matin à 10h. Vous prenez votre petit déjeuner un peu tard. Mais vous avez raison, quelle chance vous avez bien évidemment. Alors, cette découverte qui est toujours assez fascinante, la découverte de fossiles de dinosaures qui apporte aux scientifiques son lot d'émotions, mais il y en a qui sont quand même particulièrement trépidantes. C'est le cas de cette surprenante mise à jour d'un squelette d'hadrosaure qui a été faite l'année dernière, alors qu'il se promène dans le parc provincial des dinosaures, c'est au Canada. Il y a un groupe d'étudiants et de scientifiques qui tombent par hasard sur une petite partie d'un squelette de ce dinosaure à bec de canard qui affleure sur le flanc d'une petite colline. Alors de prime abord, il n'y a rien d'exceptionnel pour le lieu. Le site est classé par l'UNESCO et il est renommé pour sa formidable concentration en fossiles datant de la fin du Crétacé. Et les paléontologues s'y rendent régulièrement pour essayer de récupérer des nouveaux spécimens. Il y a plusieurs squelettes d'hadrosaures qui ont d'ailleurs déjà été retrouvés auparavant dans la région. Donc finalement, on se dit rien d'exceptionnel. Mais, en y regardant de plus près, eh bien, les scientifiques notent un détail qui a son importance. C'est que la section qui a été exposée, qui correspond à la queue et à une partie de la jambe, eh bien, présente plusieurs zones avec des restes de peau qui a été fossilisée. Les surfaces recouvertes sont d'ailleurs assez importantes et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, il n'en faut pas plus pour mettre rapidement sur pied une mission d'excavation car la découverte, elle est extrêmement prometteuse. La position de la partie visible du squelette laisse en effet penser que le spécimen pourrait avoir été préservé dans son intégralité. La grande majorité du fossile étant pour l'instant encore enfoui dans la roche sédimentaire grise qui forme la petite colline. Alors s'il est fréquent de retrouver des restes d'hadrosaures au sein de ce parc, découvrir un spécimen entier est beaucoup plus rare et pourrait apporter d'importantes informations jusque-là manquantes sur l'apparence de ce dinosaure herbivore et sur son anatomie. Donc les scientifiques espèrent d'ailleurs retrouver d'autres zones couvertes de peaux fossilisées, ce qui aiderait à dresser bien sûr un portrait bien plus détaillé de cette espèce. Alors, retrouver des fragments de peau fossilisée, c'est en effet très rare, parce que cette partie molle étant beaucoup plus difficile à conserver que les os, eh bien, c'est quand même assez, assez exceptionnel de retrouver ça. À la vue de l'importance des zones recouvertes sur la partie exposée du fossile, les scientifiques suggèrent que le spécimen s'est fait ensevelir très rapidement, certainement moins de 2 jours après sa mort. Cela aurait donc permis l'exceptionnelle préservation de la peau. Autre spécificité de cette découverte, la petite taille des os de la queue et du pied laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un jeune individu. Une découverte encore une fois assez rare et qui pourrait permettre de mieux comprendre comment ces dinosaures évoluaient et se développaient avec l'âge. Les hadrosaures sont l'une des figures emblématiques du Crétacé. Le nombre de fossiles découverts est en effet si important que l'on surnomme cette espèce la vache du Crétacé, hein, tant les troupeaux devaient être nombreux à cette époque. Et l'excavation de ce spécimen unique a débuté au mois d'août et devrait s'étaler sur plusieurs mois. Il y a un travail donc long, minutieux, qui s'est annonce, mais il est nécessaire afin de garantir bien sûr la bonne préservation du fossile. Et donc une fois dégagé, le squelette sera transféré au laboratoire de préparation du Royal Tyrrell Museum dans le but d'être étudié et analysé sous toutes ses coutures. Cette étude devrait encore prendre plusieurs années bien sûr, la patience est de mise, mais devrait ne pas douter apporter son lot de surprises et d'avancées scientifiques vraiment intéressantes. Donc cette incroyable découverte d'un dinosaure avec des restes de peau. Donc voilà, les travaux ont démarré en août et bien évidemment on suivra cette actualité parce que c'est quand même totalement intéressant et fascinant bien sûr. Pour ceux qui aiment les dinosaures, et je pense que ça peut être vraiment intéressant. On va partir dans l'espace et on va partir sur Mars précisément. Ça fait 18 mois, un peu plus de 18 mois d'ailleurs, que Perseverance se trimballe sur le sol de Mars avec à son bord toute une série d'instruments et de matériel évidemment pour pouvoir faire des expériences. Ça, on l'a déjà évoqué, et notamment d'une petite boîte qui s'appelle MOXIE. MOXIE pour Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Bref, MOXIE, cet instrument, il est passé inaperçu face aux nouvelles découvertes réalisées par le rover martien de la NASA. Et son rôle pourtant à cet instrument est crucial pour la préparation d'une mission habitée sur Mars. Car si l'absence d'oxygène libre dans l'atmosphère de Mars ne gêne en rien le fonctionnement de Persévérance, on sait que ça ne sera pas le cas pour les futurs astronautes qui auront besoin d'une réserve d'oxygène conséquente pour vivre à la surface de la planète durant plusieurs mois. Et donc dans cette optique, il y a deux options qui sont possibles. Soit on importe de l'oxygène depuis la Terre, soit on produit directement de l'oxygène sur Mars. Et importer de l'oxygène depuis la Terre, c'est coûteux, ça prend de la place, ça coûte très cher en carburant bien évidemment. Et donc les scientifiques du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ils se sont penchés bien sûr sur la deuxième option et ils ont donc intégré MOXIE sur le rover, Persévérance. Et donc dès l'atterrissage, le petit instrument s'est donc mis à fonctionner et à fabriquer de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars qui est riche en CO2. Et les résultats ont rapidement été très prometteurs. Il restait cependant à tester le fonctionnement du système au cours du temps, mais également dans des conditions atmosphériques très variables, parce que l'atmosphère de Mars elle est soumise à différentes variations de température, de densité, parce que voilà, la densité de l'air peut varier d'un facteur 2, donc c'est quand même assez important. Et puis la température peut varier de 100 degrés, donc effectivement, c'est quand même assez éprouvant. Il y a une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances qui fait le point sur les 18 mois de fonctionnement de cette mission, et force est de constater que l'opération est plutôt réussie pour cet instrument MOXIE. Lors de chaque test, l'instrument a atteint son objectif de produire 6 grammes d'oxygène pur par heure, soit l'équivalent de la quantité produite par un petit arbre sur Terre. Alors, il n'était pourtant pas évident que MOXIE arrive à supporter le stress thermique que lui imposait la planète et fonctionne de manière optimale en toute saison. Mais du coup, si ça fonctionne, l'objectif est désormais de pousser la production d'oxygène à son maximum lors du printemps martien, mais également de tester le fonctionnement de l'appareil à l'aube et au crépuscule. Ce sont deux moments de la journée où la température change rapidement et de façon notable. On vous a dit que ça changeait de 100 degrés, donc effectivement, c'est assez violent. Si les derniers tests s'avèrent concluants, eh bien, ce système pourrait être envisagé, bien évidemment, à plus grande échelle, pour fonctionner de manière continue et avec l'idée de produire de l'oxygène en amont de l'arrivée d'une mission habitée sur Mars. Bien sûr, l'objectif serait de produire la même quantité que le feraient plusieurs centaines d'arbres. Cela permettrait non seulement, bien sûr, de subvenir aux besoins des astronautes, mais également de remplir des réservoirs en prévision de leur retour sur Terre, bien sûr. Cette expérimentation est surtout remarquable du fait qu'il s'agit de la première utilisation in situ de ressources martiennes, une première qui pourrait ouvrir la voie à l'utilisation d'autres matériaux de la planète pour supporter la vie d'astronautes à la surface de Mars. Mais donc voilà, c'est vraiment prometteur, c'est une opération réussie pour Persévérance, c'est-à-dire de transformer l'air de Mars en oxygène. Ça a fonctionné, c'est fascinant, c'est ça aussi la science. Je vous dis aujourd'hui, ce n'est que des bonnes nouvelles. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was nothing. Up there on the hills, they're climbing on. You went up with an open heart, and they found you was over cold. Those hands, they seem so long. Up there on the hills, they're climbing on. You saw the line of gold. And
be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me, oh, another sign of gold you rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost. And I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your
Basia Bulat sur l'antenne de Graphite avec Gold Rush sur l'antenne. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion tous les mardis entre 10h et 11h pour l'actualité scientifique. Avec cette émission Biotine, deux informations moins réjouissantes. Il y en a une qui évidemment est assez cocasse, mais bon, on le savait. Mais là, voilà, la Direction Générale des Finances Publiques s'est trouvée un nouvel ennemi. Ce sont les piscines non déclarées, on le sait. Mais comment les débusquer sans faire du porte-à-porte ou de se coller le nez sur Google Maps? Eh bien, à Bercy, cette mission a été confiée à Google pour la partie technique avec une intelligence artificielle chargé de repérer les piscines sur les photos aériennes de l'ING, Institut National de l'Information Géographique. Concrètement, l'outil de géolocalisation couplé à des algorithmes développés spécialement permet de détecter des piscines et ensuite de vérifier pour chaque particulier si elle était déclarée au cadastre. Et l'an passé, cette expérience a été menée dans le sud-est, sur différents départements, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche. Il y a également eu la Haute-Savoie et puis une partie du Grand Ouest, Morbihan, Maine-et-Loire, Vendée et donc au total sur ces 9 départements, l'intelligence artificielle a repéré 20 000 piscines non déclarées et ça aboutit à un redressement global de 10 millions d'euros quand même. C'est quand même pas mal, c'est assez efficace. Et donc fort de cette réussite, eh bien Bercy a décidé d'étendre ce dispositif à toute la France et selon l'AFP, cette généralisation passera par une optimisation pour débusquer d'autres constructions qui n'ont pas été déclarées. Et après les piscines, ce sont les vérandas, les abris de jardin, les terrains de tennis qui seront dans le viseur. Et l'enjeu est de taille pour le ministère de l'Économie et des Finances, puisque tout cela a un coût, 24 millions d'euros sur 3 ans. Le projet s'appelle le projet foncier innovant. Ce dispositif ne devrait être rentable que l'année prochaine avec 40 millions d'euros de recettes attendues. Mais attention aux erreurs, puisque on avait révélé que 30% des piscines détectées dans les Bouches-du-Rhône n'entraient pas dans le cadre de cette procédure. Pire, dans un autre département, le taux d'erreur grimpait à 80% sur les bâtiments isolés. Donc c'est pas totalement fiable, hein, parce qu'effectivement, une piscine gonflable, ça n'est pas une piscine qu'on doit déclarer. Et ça, Google ne le sait pas. Voilà, mais je trouve ça fascinant. Faites gaffe en fait. Mais je sais pas. Ou alors si vous construisez une piscine, faites une piscine couverte comme ça on ne la détecte pas. Ou alors si on va détecter qu'il y a un... Oh oui, je sais pas. C'est compliqué. Allez à la piscine municipale, c'est plus simple. J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je trouve ça fascinant. Donc voilà, c'était la première information réjouissante, un peu cocasse, mais bon, pas totalement optimiste. Il y en a une deuxième qui n'est pas totalement optimiste, ce sont cette étude qui montre que des personnes du groupe sanguin A semblent plus à même de développer des maladies que les autres. Après la Covid-19, le risque de subir un accident vasculaire cérébral précoce, c'est-à-dire avant 60 ans, serait plus important pour les personnes du groupe sanguin A, selon une étude qui a été publiée dans Neurology. C'est une étude qui n'est pas une étude comme les autres. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui existent et en fait, on fait une analyse globale pour en tirer des conclusions un petit peu plus générales. Et c'est le cas donc de cette méta-analyse qui a été menée par les chercheurs de la faculté de médecine de l'Université du Maryland aux États-Unis. Ils ont analysé donc l'ensemble des données des études génétiques qui étaient axées sur les accidents vasculaires cérébraux et au total, près de 17 000 victimes d'un AVC ont participé participé à cette étude. Il y a eu également des personnes qui étaient des personnes témoins sans AVC. Elles avaient entre 18 et 59 ans. Au total, il y a eu plus de 600 000 personnes qui ont participé à cette étude. Et donc, du coup, ce chiffre est quand même assez conséquent et apporte, je dirais, un angle un petit peu plus crédible, en tout cas intéressant pour cette étude. Les résultats, c'est donc que les personnes du groupe sanguin A avaient 16% de risque supplémentaire de subir un AVC précoce par rapport aux personnes des autres groupes. Et au contraire, les personnes du groupe sanguin O présentaient 12% de risque en moins. Par ailleurs, le lien trouvé entre le groupe sanguin et les accidents vasculaires cérébraux à déclenchement tardif était beaucoup plus faible. Alors, les raisons ne sont pas encore claires. Le docteur Kintner, qui est la personne qui a principalement dirigé cette étude, estime qu'il faut se pencher sur les facteurs de coagulation du sang, comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, ainsi que d'autres protéines circulantes qui jouent toutes un rôle dans le développement des caillots sanguins. Nous avons clairement besoin de plus d'études de suivi pour clarifier les mécanismes du risque accru d'AVC. Que les personnes du groupe A se rassurent, ouf, en plus j'en fais partie, les auteurs de l'étude soulignent que l'augmentation du risque reste très modeste et qu'elles ne devraient donc pas s'inquiéter outre mesure. Il n'empêche que on trouve voilà, quelques disparités qu'on n'arrive pas encore à totalement expliquer, mais voilà. Et ça, ça permet aussi peut-être d'aiguiller après des recherches médicales un petit peu plus poussées, parce que dans le sens où on a déjà des pistes qui nous permettent de se dire « tiens, c'est vers là qu'on devrait essayer d'avancer, d'investiguer pour avoir un petit peu plus d'informations ». Ça peut être intéressant et ça peut faciliter certains travaux. À suivre, bien évidemment. Allez, dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite. The wind blows, quiet knows, the song is soft, the silence goes into each thread, a secret said, the sun is
I'm not ashamed.
Pierce Faccini avec The Wind That Blows sur l'antenne de Graphite. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain, bien sûr, pour une nouvelle émission de Biotine. L'actualité scientifique continue, bien sûr. Vous avez la possibilité de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur graphite.net et de nous suivre toujours sur la bande FM 94.9. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt. Merci. Au revoir.